Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé. Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, tu papotes avec De Gaulle sous un arbre centenaire, tu lui racontes le nouveau monde en marche, l'info en temps réel, la culture du clash, les réseaux pas si sociaux, qui parlent encore de lui avec le hashtag mon général. C'est quoi ce vieux machin, te demande De Gaulle? Car finalement c'est vrai, qui de l'arbre centenaire, de Twitter ou du gaullisme sera le futur machin de demain? Dans tes rêves, tu fais des selfies avec Laurel et Hardy, c'est Tati qui tient la perche du smartphone, encore un futur vieux machin dont l'obsolescence est déjà programmée, et toi tu es le plus heureux des hommes au milieu de ta bande de fantômes qui tirent la langue aux selfies. Tu préfères les artistes qui sortent du cadre à tous ceux qui marchent en rang. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier journaliste, écrivain, ex-conseiller en com du président Hollande, chroniqueur pour Midi Libre, un déjeuner à Madrid aux éditions Le Cherche Midi, c'est un roman à la fois vrai, faux, sur une rencontre qui existait pour de vrai, entre deux grands généraux de l'histoire, un héros et un salaud, on en reparlera. Bonjour, bonsoir, Claude Sérillon.
Bonjour Laurence.
C'est vrai finalement, qui de Twitter, du gaullisme ou de l'arbre centenaire sera le futur vieux machin de demain, puisqu'on s'en pose des questions imaginaires.
J'en sais rien.
Vous n'avez pas une petite idée?
Non,
hein,
j'ai aucune idée. Déjà, j'ai du mal à m'occuper du présent. Alors,
c'est vrai.
Franchement, qui ça pourrait être? Peut-être être encore autre chose. Regardez, qu'est-ce qui nous reste d'il y a 200 ans, ou il y a 100 ans? Pas grand-chose, finalement, y compris dans les écrivains. Il y a des écrivains, des artistes qui étaient très très connus, très suivis à l'époque. On ne s'en rappelle même plus. C'est même pas ce qu'ils avaient écrit.
On se rappellera de Sérillon dans 200 ans, moi j'en suis sûre.
Je suis pas franchement sûre. Je sais pas si c'est souhaitable en plus.
Dit-il. Il est très nombreux lui aussi dans sa tête. Mon second est humoriste, acteur, piégeur, poète de l'absurde dans le fameux rôle d'Hugues Delatte, ce faux journaliste ringard. Enfin, il jouait ça, en tout cas, aux cheveux gras. Pourtant, il n'a pas les cheveux gras, là. Dans son vieux gilet marron, Lacoste, qui posait des questions complètement à côté de la plaque à toutes les stars. Ma grand-mère vous adore, c'est son dernier seul en scène avec des mamies qui font des selfies, entre autres, et beaucoup de flashbacks en images.
Oui.
Bonjour, bonsoir, Raphaël.
Bonsoir.
Mesrahi.
Merci de m'accueillir.
C'est un plaisir.
Non, c'est bien. J'adore cette ambiance, cet endroit, je suis bien, quoi. Mais j'aime bien être bien, quoi. C'est ça,
oui, tant qu'à faire. Ouais. Il vous plaît mon rêve avec Tati, oui. Laurel et Hardy?
Ah oui, ça me plaît. Oui, tout ce que, oui, c'est bien. Même De Gaulle, c'est bien.
De Gaulle, ouais.
C'était mon voisin. Moi, j'étais à l'école à Bar-sur-Aube, et tout en haut de la colline, je voyais la croix de Lorraine. Donc tous les matins, je prenais mon petit déj en regardant la croix de Lorraine.
Voisin imaginaire.
Ouais, c'était super.
De toute façon, vous aimez bien les gens qui sortent du cadre, vous.
Hein, je n'aime que ça.
Ouais.
Ouais, les cadres, je m'en fous un peu, mais je préfère les gens au cadre, d'ailleurs.
Alors, c'est pas votre première rencontre dans la vraie vie, hein, vous connaissez forcément.
On se connaît pas tant que ça.
Voilà, bah ça va être l'occasion. Ouais. Mais j'étais étonnée que...
Non, on a un peu travaillé ensemble.
Voilà.
Ah, quand même.
Il y a longtemps.
Il y a très longtemps.
C'était en 90, je crois, pour une émission qui s'appelait Une fois par jour, qui a duré que 4 mois. Mais on avait inventé beaucoup de choses.
Ouais, c'était bien. Moi, j'étais envoyé spécial. J'ai fait les villes, j'ai fait Toulouse, j'allais dans plein de villes de... En région, et je m'occupais d'un truc qui s'appelait bande de jeunes. Donc on allait choper, la mission c'est d'arriver tôt dans la semaine, récupérer des jeunes et de faire débattre avec les jeunes sur l'actualité de la semaine. C'était marrant, hein. Il y a eu tout, il y a eu des jeunes un peu furieux, des jeunes plus marrants, c'était la vie, quoi.
Mais vous l'avez jamais piégé, Claude Sérillon, avec vos personnages là, un peu loufoques?
Il y en a plein aussi, j'en ai fait pas loin de 200.
Oui, quand même.
Voilà, quand même. Mais puis après, surtout, on rabâche toujours ça, mais moi, c'est qu'une étape de ma vie.
Eh oui, mais c'est elle est marquante quand même, celle-ci.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça, mais j'ai fait.
C'est encombrant, ça, ou pas?
Alors, non, parce que si. Non, c'est pas encombrant du tout, dans la mesure où il y en a qui ont rien du tout, qui me disent, putain, j'aimerais tellement avoir un tube comme toi.
Être encombré de quelque chose, quand même.
Oui, non, mais c'est pas. Non, il y a. C'est pas. Mais il y a des trucs. Non, mais quand je fais mon spectacle, j'ai tout sauf des interviews, parce que je diffuse aussi des images, mais qui n'ont pas été diffusées à la télé et qui sont pas sur Internet.
Ouais.
Parce que ce que j'explique, c'est que l'intérêt d'Internet, c'est surtout de ne pas y être. Donc, si vous voulez me voir, venez voir mon
spectacle. Mais voilà, la vraie vie, elle n'est pas forcément sur les réseaux. C'est
exactement.
Les réseaux sociaux. Si on vous a réunis ce soir, il n'y a pas vraiment de hasard. Alors, il y a un humour un petit peu surréaliste, dadaïste. Je ne sais pas comment on pourrait le définir pour Raphaël Mesrahi. Un humour plus frondeur quand même, bienveillant. Est-ce que pour Claude Thérillon, je ne sais pas si ça vous ressemble ou pas, frondeur, bienveillant.
Frondeur, non, je ne crois pas. Non, je suis peut-être quelquefois un peu raide dans ma manière de d'avoir des convictions. Non, frondeur, vous voulez faire allusion au fait qu'on m'a souvent prié d'aller exercer mes talents ailleurs. j'ai eu pas mal de hauts et de bas, mais j'ai été très privilégié, j'ai fait plein de choses passionnantes, aussi bien des émissions un peu foutraques une fois par jour que Géopolis, qui était une émission très sérieuse. J'ai présenté et créé le Téléthon avec Olsé Drucker, ce qui était une aventure formidable. J'ai présenté le journal, j'ai fait
Non, mais chez vous, il y a quand même, quand on dit Claude Thérillon, il y a toujours cette risette dans l'œil, il y a cette notion d'humour aussi.
J'ai été élevé dans le journalisme, si j'ose dire, avec la volonté d'être assez rigoureux, de travailler, de ne pas se laisser avoir. Ça m'est arrivé de me mettre en rupture avec un ordre établi, quel qu'il soit d'ailleurs. Et puis, ça m'a coûté, mais en même temps, ça m'a permis aussi de rester à peu près conforme à ce que j'avais envie d'être.
Droit dans ses
bottes. Pour le reste, j'ai un rire qui est un peu...
Oui, quand même, sonore.
Insupportable, paraît-il.
Ah bon? On vous le dit,
non, parce qu'il est bon, c'est un bon vivant, Claude.
Ouais, bah, c'est ça.
Il est beau de décoffrage, il est authentique. C'est voilà.
Pour après, ça, d'ailleurs, que quand on est arrivé ici, je me suis dit, il est tard, moi j'aurais bien pris un petit digestif.
Oui, un petit rhum, c'est bien.
Oh, un vieux rhum.
Un vieux rhum. Petit vieux, alors.
L'humour absurde aussi, cher à Raphaël Mesrahi, c'est une pirouette, c'est un masque pour affronter le réel ou c'est une question de nature? Vous êtes comme ça?
Non, le réel m'ennuie profondément. Mais tout m'ennuie profondément. Mais c'est terrible.
Ah bah d'accord.
Hein. Non, je vous
même
jure.
Nous, là, ce soir.
Tout est un poids. Non, là, j'ai un vrai bonheur. Parce que, et j'adore cette maison qui est un peu la mienne. Enfin, je me suis, approprié la maison de la radio. J'adore cette ambiance. J'adore la chaleur et la chaleur de cette.
Ça caille, là, dans le studio.
Oui, mais ça, je parlais pas de cette chaleur-là. Je parlais de la chaleur du son. Mais il y a une chaleur particulière, quoi.
Mais tout vous ennuie, vous dites.
Souvent, oui, parce que tout m'ennuie très vite. C'est pour ça que je consacre beaucoup ma vie à beaucoup d'assos, aux animaux, énormément.
Oui, ça c'est vrai.
Et au bien-être, mais à mon bien-être. Parce que le vrai bien-être, les forums de bien-être, toutes ces conneries, c'est pas du tout mon truc. C'est pour ça que je fais la nuit de la déprime, parce que je préfère les gens déprimés aux gens heureux, au moins on est sûr que c'est vrai.
Vous connaissez les nuits de la déprime qu'il organise les Folies Bergères avec des chansons tristes.
Et que des stars, attention.
Dont la devise est à quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main.
Oui.
C'est sponsorisé par Kleenex et Nutella.
Non, Nutella c'était la première, parce que. Alors maintenant j'en ai d'autres. Là cette année je suis en train de je vais essayer de choper Stana parce que c'est les montes escaliers qu'on va mettre dans le hall avec essayer le monte escalier avant l'âge.
Mais
avec,
le problème c'est que ça se coince souvent.
Non, justement c'est que dada. On distribue des madeleines parce que pleurer comme une madeleine, mais c'est un chef étoilé qui nous file les madeleines. Enfin c'est très haut de gamme et déconnant quoi.
Et en même temps vous avez créé une petite polémique au nu
avec les animaux.
Oui parce qu'il a interdit aux gens porteurs de vraies fourrures et on vous a reproché l'intégrisme vestimentaire.
Non mais parce qu'après on est rentré dans des trucs, des débats, non mais j'ai été assigné, enfin, il y a des trucs invraisemblables quand il y a un début de procès, parce que c'est en haut de l'affiche écrit 100% de la recette sera distribuée aux associations pour animaux, mais c'est vrai, donc je redistribue toute la recette, toute la billetterie c'est pour les animaux, et en dessous j'ai écrit entrée interdite aux porteurs de vraies fourrures. Bah c'est normal parce que c'est un peu de respect pour les animaux à qui je vais donner de l'argent quoi. Donc mais le problème c'est que les gens qui lisent le truc comprennent pas forcément tout. Puis de toute façon on n'interdit rien. J'ai pas des hommes en armes à l'entrée avec t'as quel âge, je vais te casser la gueule. Non c'est la langue française. Mais après les gens maîtrisent pas tout ce que je raconte. Puis de toute façon
oui le second degré, le troisième degré,
c'est insupportable. Degré. Mais je donne quand même tout aux animaux et je continue à voilà, de toute façon, si vous voyez Mesrahi, c'est que venez pas avec une fourrure, c'est mieux.
C'est clair.
Voilà.
À l'inverse, vous n'en portez pas, hein, Claude Thérillon.
C'est pas sûr.
Mout. À l'inverse, Claude Thérillon, vous citez souvent Prévert. Alors, la devise n'est pas du tout la même. Ouais. Il faudrait essayer d'être heureux.
Oui, vous savez, c'est la fameuse phrase de Prévert que Jean-Louis Trintignant avait citée au palmarès du Festival de Cannes quand il avait fait le film Amour. Il avait dit « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?» Et j'aime beaucoup cette phrase-là. Et moi, c'est un peu, alors à la différence de Raphaël, c'est un peu ce que j'essaie de mettre dans la tête tout le temps. Si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça fait beaucoup de bien parce que, bon, par le métier que j'ai fait, on est plutôt toujours dans des choses lourdes, dans une actualité difficile, dans des drames, des moments durs, violents, qu'on a pu connaître en France ces derniers temps, ou que j'ai pu connaître sur des lieux d'opération de militaires ou autres. Donc, moi, j'essaye de, je me dis, il faut qu'on essaie toujours d'être plutôt d'aller vers la bienveillance, vers une sorte de bonheur d'avoir envie de partager. Voilà, je suis plutôt dans cette idée-là.
Et c'est pas béni oui-oui et on
non,
assume complètement.
Non, je crois pas être très béni oui-oui. Moi, j'ai un peu moins de conviction qu'avant. J'ai
ça
un peu
arrive.
Moins de certitude qu'avant, mais j'ai un peu plus de conviction. Quoi. Voilà, je garde mes convictions à moi. Ce qui, moi, on les partage pas forcément, mais j'essaie d'avoir plutôt cette empathie, cette joie. C'est tellement sympa les gens qui sont toujours dans la joie, dans l'enthousiasme.
C'est clair. Et c'est la résistance, d'ailleurs.
J'ai quelques copains comme ça, on leur dit on fait ça, ah ouais, c'est formidable. Puis on dit, ah ben non, on va pas faire ça, on va faire ça. Eh ben oui, c'est formidable. Alors c'est un peu con-con, mais c'est léger. La vie, elle vous ramasse quand même, en général, des trucs un peu durs et violents, tandis que là, je sais pas, avec cette idée-là, je vis un peu plus léger.
Eh ben, de la légèreté, on va en avoir ce soir avec deux curieux de l'autre. C'est aussi pour ça qu'on vous a réunis. Voilà pour notre partition onirique jusqu'à minuit. Vous postez vos songes, bien sûr, sur notre page Facebook Dans tes rêves. La rêve partie anti-blues, même si vous préférez les nuits de la déprime.
Non, oui ou pas. C'est justement le contraire. C'est que je préfère le bonheur. Mais enfin.
Mais enfin.
Que quand même. Écoutez Charles Trenet.
Oui, parce que quand on est déprimé, on écoute des chansons tristes pour aller mieux.
C'est vrai.
C'est ça le truc.
Là, nous, on a une chanson que pas forcément triste. Cette émission, bien sûr, préparée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation. Nadia Chougui, la préparation. Muriel Pérez, pour la programmation. Oh. Et ce soir, à la technique, notre rêveur, Gilles Gaillard. Belle soirée.
Stands my downs.
Found the one.
Put up with my need of everybody under the sun.
Ooh,
I found the one. If you're gonna gamble, may as well be on love.
Found the one.
May have had something before.
Found the one.
But now you can't get enough. Before it's all said and done, I found the one. Myself waiting in line.
Found the
round so many ways.
Found the one.
Of wasting my time. No more races to run. Found the one. Now I follow my heart. Wherever the road ends.
Toujours sur France Inter, c'était Ben Harper.
Waouh, il a fait la désannonce. Vous voulez prendre ma place? Je sais que c'est la grande période du mercato. Merci beaucoup, Raphaël Mesrahi, accompagné ce soir dans les rêves de Claude Sérillon.
Dans tes rêves.
C'est rien qu'un chien.
Peter. Rien qu'un chien? Avec un peu d'imagination?
Il essaie d'être une sorte d'amuseur public, un excentrique.
Laurence Garcia.
Et nos deux invités ce soir, on est vraiment ravis de cette rencontre. Entre vous deux, comme à chaque fois, on explore l'imaginaire de l'enfance, qui explique aussi un peu qui l'on devient parfois. Je vais commencer par vous, Claude Sérillon. Vous êtes né à Nantes, un papa préparateur en pharmacie, une maman au foyer. Élevé dans quelle valeur familiale?
Moi, j'avais deux parents qui étaient, je crois, des gens très intelligents. Ils n'avaient pas fait d'études, ou pratiquement pas, mais qui avaient un sens de la tolérance et de l'ouverture qui était génial. Donc, ils nous ont laissés très, très libres. Mais c'était dans tous les domaines. On avait un jardin et mon père avait divisé on est quatre enfants, il avait divisé le jardin en quatre parties. Et puis, il nous avait dit, bon, chacun va cultiver son lepin. Et donc, on faisait pousser ce qu'on voulait, des haricots, des pommes de terre, mais des fleurs, ou rien du tout.
Mais chacun sa partie, ça se mélangeait
chacun
pas.
Chacun avait sa partie.
C'est drôle, et vous,
oui,
vous...
Oui, déjà ça, c'est, ouais, c'est déjà un
signe. L'éco-partage, déjà,
à l'époque. Intelligence. Et puis, intelligence et très grande tolérance, je pense, vis-à-vis des idées et des opinions.
Mais on parlait politique à la maison, plutôt l'associatif?
On parlait pas beaucoup politique, mais c'était sans doute l'époque qui le voulait, puis la télé est arrivée un peu plus tard. On parlait beaucoup d'associations, on était beaucoup dans des activités associatives. Moi j'étais moniteur de conies de vacances, on faisait beaucoup de choses, on était un groupe. J'allais beaucoup en colo, moi, ou en centre aéré. Et puis on était plutôt dans les mondes associatifs. Il y a eu toujours cette forme de générosité de s'occuper des uns et des autres.
Plutôt dans le faire que dans le dire alors.
Et oui, mais je crois que ça m'a bien structuré. Ça a aidé d'abord à apprendre à aimer les gens. Aimer les gens, ça veut dire s'intéresser à eux. Je pense qu'on peut pas faire le métier de journaliste si on s'intéresse pas aux gens. Si on n'a pas envie d'aller voir un peu, d'être un peu curieux des choses, quoi. Et puis, une forme d'éthique, je pense que mes parents m'ont laissé et je leur suis très reconnaissant de ça.
18 ans, forcément, en 68, ça vous marque un homme, hein. On parle beaucoup de 68 en ce moment.
Oui, j'étais un peu
agité. Vous étiez à Nantes, hein, pas à Paris.
Non, j'étais à Nantes, j'étais délégué d'élèves lycéens, donc j'ai pris un peu la parole, mais parce que j'avais souvent sur mon carnet de notes bavard.
C'est étonnant, ça.
Ou insolent. Voilà, donc c'est là d'ailleurs que j'ai décidé d'être journaliste, parce que l'actualité m'intéressait. Donc on écoutait la radio, et voilà, un peu la télé, mais on écoutait beaucoup la radio. Il y avait Nantes était une ville très dans le bouillonnement. Hein. Mm-hmm. Il y avait un milieu anarcho-syndicaliste qui était très fort. Voilà, c'est là que j'ai décidé d'être journaliste. Et puis deux ans après, alors que j'étais en licence de lettres, je suis allé pousser la porte du journal régional, Presse Océan. J'ai commencé par faire des reportages sur le foot, puis sur les chiens écrasés, police, pompiers, gendarmerie, correctionnelle. Vivait la nuit beaucoup.
L'école de la presse quotidienne régionale. Hein.
Voilà, et c'est là que j'ai appris les fondamentaux de ce métier, c'est-à-dire une forme de rigueur, de vérifier l'information, d'être là sur le terrain, d'aller voir les joueurs, quoi.
Et alors, 28 ans cette fois-ci, en 1978, alors que vous rêviez de bousculer le vieux monde, les anciens, le passé, les fachos, les staliniens, les curés, les réacs, ça c'était en 68, vous l'écrivez dans ce livre-là, Un déjeuner à Madrid, et un autre de vos amis, je crois, lui, y rêvait plutôt de ça.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York.
Yves Simon, forcément, un de vos amis, vraiment fidèle.
Oui, tout à fait. Très bon écrivain. Il faut avoir lu Océan, et sans doute un livre formidable qu'il faudrait rééditer tellement c'était bien. Ouais.
Fan de ses mots, sa poésie.
Oui, il est un tout petit peu plus vieux que moi.
Oui. Mais alors justement, lui, il rêvait New York dans ces années-là. Vous étiez déjà à Antenne 2.
118,
voilà. Qu'est-ce que le jeune Claude Sérillon, jeune journaliste, il rêve de quoi dans cette France de Giscard, alors qu'il est déjà installé quand même mine de rien dans une grande maison?
J'étais aux côtés de Paul Lefebvre, je m'occupais de la chronique judiciaire, je faisais plein de reportages, ou à l'étranger, ou en France et tout, mais je faisais beaucoup la chronique judiciaire, et j'étais assez engagé contre la peine de mort. Et j'ai eu, à partir de 76, j'ai suivi le procès de Patrick Henry. Et puis, j'ai suivi beaucoup Robert Badinter. J'ai eu ce privilège pendant plusieurs années dans son combat. Et ça, ça me structurait aussi un peu, ça.
Ouais. De toute façon, vous le dites, hein, le journalisme, il faut arrêter avec l'hypocrisie, c'est un engagement.
Je ne crois pas du tout à l'objectivité.
Voilà, neutre.
Je crois que nul n'est objectif. J'essaie d'être honnête, d'être à peu près rigoureux. Ça m'est arrivé de commettre des bêtises. Hein. Mais je ne crois pas à l'objectivité. D'abord, elle m'ennuie, l'objectivité. Moi, j'aime bien les gens qui sont un peu subjectifs, qui ont des convictions. Voilà. Et je crois que c'était un peu ce que l'on a pu faire avec notamment mon ami Bernard Rapp. On faisait des journaux personnalisés. D'ailleurs, ça marchait très bien. Et puis, j'ai toujours continué à essayer de faire mon métier comme ça, ce qui, quelquefois, m'a obligé à aller voir ailleurs, mais bon.
C'est comme des allers-retours.
Ouais, c'est pas un problème.
Vous, il paraît que Raphaël Mesrahi, oui. Vous avez été viré d'une...
Ah, de plein.
De plein aussi, oui, hein, plein, oui. Et notamment d'un producteur de l'émission Perdu de vue. Vous avez déboulé en aveugle.
Oui, le lendemain, parce que ça me faisait... Parce que moi, je croyais que c'était une émission d'humour, Perdu de vue, donc... C'est... Non, mais... Moi, j'étais coordinateur des duplex. C'était un truc invraisemblable. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, mais fallait bien démarrer, fallait bien faire des choses. J'étais stagiaire, un peu. Juste avant, j'étais stagiaire à Super Sexy,
oui,
je déshabillais les filles. Enfin bon, moi, c'était plutôt sympa. À l'époque, elle lisait rien. Et...
Ah bah oui, là, aujourd'hui, ça serait impossible. Hashtag balance.
Et donc, fallait que je gagne ma vie. Donc, on me proposait un peu Perdu de vue. Je dis, c'est quoi? C'était bon. J'ai dit, ok. Puis en plus, Pradel, garçon charmant, vraiment, très sympathique. Et je me trouve coordinateur des duplex. Et je vous jure, une fois, c'est vrai, on a retrouvé une femme qui avait abandonné sa fille dans une poubelle 20 ans avant. La fille, elle voulait revoir sa mère. C'est un truc glauque, mais vrai. Je dis, c'est quoi ce gag? Et donc, on arrive là-dedans et... On était en direct et donc la femme elle reconnaît la maison parce qu'elle était en direct à la télé et donc et moi je dis tiens on a retrouvé la femme la mère on n'a pas retrouvé la poubelle et donc le lendemain je suis allé dans les bureaux de Perdu de vue avec une canne blanche et des lunettes noires, je dis bonjour, je cherche le bureau
viré.
En chantant Madère disparue, mais voilà, donc j'étais viré. Oui.
Bon, alors bien avant tout ça, on parlait de l'enfance de Klaus Hérillon. Vous êtes né en Tunisie, mais un pays qui reste assez virtuel. Vous n'y avez vécu qu'une seule année, hein. Vous avez grandi surtout à Troyes.
Ah oui, je suis arrivé, j'avais un an à Troyes.
C'est ça, oui. Un an à Troyes, pas mal. Vos parents, ils parlaient de leur pays perdu, d'exil, ou ça restait tabou, douloureux?
C'était très très douloureux, mais d'une violence insoutenable, vraiment, jusqu'au jour où j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Tarek Ben Amar, un grand producteur qui a produit Michael Jackson, qui a produit plein de gens, et il m'a dit, ouais, t'es né en Tunisie, est-ce que t'y retournes, c'est ton pays? Je dis, non, jamais, plutôt crever. Il me dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton pays, tes racines, tout ça. Parce que je dis non jamais, j'ai rien contre la Tunisie, rien contre personne d'ailleurs, et aucun pays. Mais c'était violent par rapport à mon éducation, ma naissance, et puis mes parents étaient un peu virés, puis c'était une période un peu bizarre. Bon. Et un jour, je lui dis, ok, d'accord, j'accepte ton invitation, ton jet privé, tout ça, on y va. Donc, on arrive là-dedans, en Tunisie, voilà, royal au bar. Et au bout de deux jours, il y a un assistant de Tarek, parce que Tarek, c'est monstrueux, je ne connais pas Tarek Ben Amar, allez sur Internet, c'est assez étonnant.
Et, je crois qu'il ne fallait pas aller sur Internet.
Mais pour voir un peu qui, oui, si on ne connaît pas du tout. Après, dans les détails, on n'y va plus. Et donc, au bout de deux jours, il y a un assistant qui me file des clés, il me dit, voilà, je sais quoi, il me dit, on a retrouvé l'appartement dans lequel vous êtes né. Et là, waouh, la violence du truc. Non, mais j'y suis allé, c'était terrible. Après, je suis allé dans le cimetière. Le problème du cimetière en Tunisie, là, j'ai mis 6 mois à m'en remettre parce que le cimetière juif là-bas, c'est que c'est une catastrophe. J'ai pas connu mon grand-père, j'ai fait connaissance avec son squelette. C'était une violence insoutenable parce que tout est délabré. C'est une horreur, c'est un scandale, c'est une honte absolue pour l'humanité. Vraiment. Et je ne peux rien faire. J'ai pas de moyens. Enfin, je suis tout seul, mais moi, je voulais rapatrier les corps et tout. C'est un cauchemar qui me hante toujours.
Mais sans faire de psychologie de bazar, justement, Raphaël Mesrahi, parce que c'est une histoire un peu méconnue, hein, enfin, familiale et personnelle.
Mais je raconte jamais rien. Oui, on pense que je suis on pense qu'on veut, d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave. Je raconte rien. Je raconte que des trucs qui n'ont aucun intérêt.
Oui, mais justement, non, pas du tout.
Oui,
mais non, mais c'est cette pirouette de l'absurde.
C'est pour oublier. La violence du quotidien, évidemment.
Et du passé.
Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Non, c'est très très dur tout ça. C'est très dur. Et je soutiens beaucoup de causes insoutenables parce que c'est justement pour les aider, pour les alléger un peu. Mais ça, je rentre pas dans les détails, j'en parle jamais quasiment. Ouais. Là, vous me posez la question, je vous réponds.
Autrement,
je suis plutôt, voilà, je suis un iconoclaste qui se promène et puis on se dit, tiens, t'as vu, lui, mon début de spectacle démarre comme ça. Genre, la phrase la plus forte qu'on m'ait dit d'une fois, c'est, vous n'étiez pas Raphaël Mesrahi, vous, avant? Oh, c'est énorme.
Ah, c'est ça?
Ah oui, j'adore.
Ah oui, il y en a deux. Et ma grand-mère vous adore.
Vous adore.
Alors, vous parliez des iconoclastes, on parlait tout à l'heure des Tati, des Laurel et Hardy, et parmi aussi vos modèles, il y a celui-là.
Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Oh, en vous attendant, j'admirais votre collection. C'est curieux quand on y songe. Je n'y connaissais rien du tout en orchidées. Et voilà que tout à coup, ça me passionne au point d'en rêver la nuit.
Voulez-vous me dire, je vous prie, ce que vous faites ici?
J'allais oublier. Vous avez, comme on dit, la main verte, monsieur.
J'ai quoi?
Regardez le violet d'Afrique, la plante de ma femme. Savez-vous qu'il est en train de lui pousser une petite fleur? Alors, je ne sais pas comment vous faites, mais je peux vous dire une bonne chose. C'est un vrai miracle.
Et oui, forcément, le lieutenant Columbo, interprété par Peter Falk. Pour vous, Raphaël Mesrahi, c'est le génie absolu. C'est vrai, vous rêvez de le... Parce que moi, je trouve que vous avez la tête de l'emploi.
Moi, mon rêve, c'est d'être Columbo, mais pour de vrai.
Non, mais c'est vrai.
Je rêve de jouer ça, mais pour de vrai. Et donc, les années passent, je me dis, putain, je ferai jamais. Et je rêve d'avoir une série, je rêve d'incarner Columbo, quoi. Et moi, j'aime beaucoup, et Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, parce que quand on se voit, on parle de Columbo, parce qu'ils sont des fans amoureux. Ils me disent, ouais, tu l'as vu, cet épisode, machin, ça.
Et encore un personnage qui est malin, alors qu'il passe pour un plouc à côté de la plaque, les fameux
compris,
à côté
ouais.
de la plaque.
Columbo, c'est mon rêve absolu, voilà. Genre, je cherche en plus, c'est la mode des séries, j'en supplie, si un producteur, je veux faire absolument Columbo.
L'appel est lancé.
Aujourd'hui, il n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. À quoi ressemble la sortie? Aujourd'hui, il n'existe plus. Aujourd'hui, il n'existe plus. Aubes et crépuscules confondus, et le flux semblable au reflux, aujourd'hui n'existe plus. On avait des histoires en nombre, on n'avait qu'à se décider, pour en prendre une et l'adopter, et la faire entrer dans le monde. Matins pâles et bariolés, se côtoyaient perçant la brume. Vacants de quart en quart de lune, rien pouvait nous rassasier. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. Vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondu, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus.
Aujourd'hui n'existe plus, c'est Dominique A sur France Inter et demain sera meilleur avec nos deux invités, Claude Sérillon et Raphaël Mesrahi.
Vous êtes débile ou quoi?
Mais attendez, c'est vrai. Regardez, lui il est devant moi, il décolle du scotch, je sais pas ce qu'il fait. Tu fais quoi là?
Il a rien à foutre, il prépare sa caméra pour filmer.
Oh, je savais pas.
Concentre-toi sur tes paplards, regarde tes notes de merde et fais pas chier les autres. Merde.
Vous connaissez, enfin, je tutoyais tout à l'heure, tu connais peut-être des gens connus?
Oui, alors?
Voilà, bon, c'était pour voir si c'était sympa, quoi. Parce que moi, je fais ça, je choisis les gens que j'interviewe pour pas avoir des gens classiques, quoi, tout le temps interviewés, quoi. T'as...
Mais si tu as des gens classiques et que tu leur poses des questions de naze, ils peuvent être n'importe qui, ils seront toujours nazes, mon grand.
Je sais pas, je vais pas vous embêter plus longtemps, alors.
Oui, je crois que vraiment, là, je crois ouais. que...
C'est, ça a été, tu trouves que je me suis bien débrouillé?
Écoutez, ouais, je vous dis franchement, retournez à l'école, hein, prenez des cours... Lisez les CV, intéressez-vous à ce métier, puis quand vous serez vraiment intéressé à ce métier, pendant quelques années, vous recevrez des gens, parce que je vois mal barré, là.
Et ça fait toujours aussi rire, c'est culte, hein, quand même. Hein, oui, Jean-Pierre Castaigne dit, il faut dire qu'il y a eu une demi-heure avant, ou une heure, je sais pas, voilà, de questions débiles.
Oui.
Vous le confondez avec...
Oui, c'est un résumé de ma vie. Ouais,
c'est ça.
Je confonds pas, non, je pose que des questions. Tout est authentique, mais qui n'a aucun intérêt. Voilà. Mais c'est le aucun intérêt qui m'intéresse.
Mais
dans
il est resté.
Tout le monde reste 50 minutes à peu près.
C'est ça. Après, il y a vraiment une saturation.
Et après, ils sont complètement paumés. Et donc, ils osent même plus se lever de leur chaise et partir. C'était juste Alain Decaux qui était parti au bout de 4 minutes.
Ah oui?
Et je dis, c'est pas grave, je continue à interviewer le fauteuil vide. Donc j'ai parlé au fauteuil pendant 20 minutes après seul. Donc il y avait un champ contre champ avec un fauteuil vide. Mais parce que ça m'amusait moi. Donc c'était que...
Et vous continuez comme ça avec votre mèche sur le côté, votre...
Il peut se passer n'importe quoi, je m'en fous.
Mais jamais vous n'avez interviewé des politiques.
Si, j'avais fait François Baroin, parce que comme je suis de Troyes, donc je le connaissais pas, j'ai autant faire connaissance avec le maire. Et donc j'ai interviewé, je suis sympathisé avec Baroin, j'ai fait Jacques Lang à l'époque. Je dis, vous tous les ans, vous vous montez, vous franchissez la roche de Solutré, vous finissez dans les combien maintenant avec l'habitude. Il me dit, mais c'est pas du tout une compétition. Enfin bon, c'était plutôt marrant, quoi. Non, c'était...
vous qui avez côtoyé les politiques, mon cher Claude Sérillon, ils ont de l'humour quand même malgré tout. Le côté décalage là où justement rien n'est formaté.
Les gens de droite
là...
sont plus marrants que les gens de gauche.
Ah bon,
Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Il y a des même proportion partout. Il y a des gens qui ont beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai. Vous allez dire que je suis fidèle, mais c'est vrai que François Hollande a beaucoup d'humour.
On lui a
même reproché peut-être d'en avoir presque trop. Oui. Jacques Lang, il a quand même pas mal d'humour, y compris sur lui-même.
Oui, mais là, on est face au lâcher-prise. On est dans un imaginaire.
Fort, je vais vous dire, le plus fort, c'est Copé.
Mais il est le fils d'un comédien, lui. Hein.
Oui, c'est
un très bon comédien.
Très, très bon. Ouais. Il avait joué dans La Rave de.
Mais en même temps, justement, avec du recul, avant d'en venir à cette roman à la fois fiction et réalité autour de ces deux personnages que sont De Gaulle et Franco, parce que quelque part, ce livre aussi pose des questions sur nos héros, les héros politiques, les héros qui vieillissent, le culte des égaux. Vu l'expérience que vous avez pu avoir, est-ce que ça a un regard moins romanesque, plus désillusionné sur ce monde-là, ou malgré
non,
tout
non, pas du tout. Je suis, après cette fonction de 2 ans, là, que j'ai quittée par moi-même, parce que j'ai l'impression de ne plus être utile, je suis sorti avec plus de mansuétude pour le monde politique que pour le monde médiatique, vous voyez.
Oh,
parce que j'ai vu l'envers du décor, comment travailler journaliste ou ne travailler pas, justement, et comment ils ont opéré du bashing qui avait commencé sous M. Sarkozy, d'ailleurs. Et donc, ça m'a donné un regard un peu plus critique sur l'exercice de notre métier, justement. Donc, non, j'ai pas eu ça. Non, là, sur le héros, ce qui m'intéressait avec De Gaulle et Franco, c'est que d'abord, le 8 juin 70, quand je posais la question, il y a très peu de gens qui savent ce qui s'est passé. On est un an après le départ du général De Gaulle, par un référendum qui le répudie, d'une certaine manière. Il est blessé, il le dit lui-même. Et puis, via son aide de camp, M. Desgrédulou, il demande à voir l'ambassadeur de France à Madrid. Et il dit, voilà, je veux aller en Espagne. D'ailleurs, il confiera à Malraux, ils aiment Don Quichotte, donc ils doivent m'aimer, quoi. Bon. Il ne connaît pas l'Espagne, il a envie. Il a été toujours fasciné par le personnage de Charles Quint. Et donc, il dit ça, et il ajoute, naturellement, je verrai Franco. Stupéfaction. Ouais. Franco est au banc de toutes les nations, pratiquement. L'Espagne a été à quelques chancelleries, mais elle est tenue à l'écart. Le régime franquiste, c'est pas très fréquentable. Et il dit, naturellement, je verrai Franco. Alors, Franco, quand il l'apprend, il fait des bons de joie. Il va tout organiser, il va s'occuper de tout. C'est la seule fois dans la vie de Franco, il va s'occuper, y compris du menu.
On mange du saumon, des pommes de terre.
Donc, c'est cette rencontre-là qui m'intéressait. Oui. C'est comment ce voyage, qui s'est fait pas en catimini, parce que tout ça a été facile à savoir, mais la presse n'a pratiquement pas parlé à l'époque.
D'où la part de fiction et de romance aussi.
Tout le dialogue, je l'ai inventé.
Mais en même temps, vous n'avez pas un petit peu hésité, vous, le journaliste du factuel, du réel
J'ai inventé à partir d'un long travail, ça m'a pris plusieurs années, où j'ai repris des éléments de discours, de propos tenus et par Franco et par De Gaulle, et j'ai tordu la réalité. Hein. J'ai utilisé des phrases réelles et je les ai mis comme pour une pièce de théâtre. J'ai organisé ce dialogue entre eux parce que officiellement, ils auraient parlé de l'actualité internationale et du Vietnam. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu court et je me suis dit, mais quand même, ces deux personnages, l'un dans le camp de la résistance, l'autre quand même qui fait le salut fasciste avec Hitler à Montpellier. Hein. Bon, je me suis dit, c'est pas possible. Cette rencontre est déjà un peu effarante intellectuellement, donc j'ai envie qu'ils dialoguent, qu'ils discutent, parce qu'ils ont quand même des points communs.
C'est ça, c'est pas que les dissemblances.
C'est deux généraux, deux militaires
catholiques
qui vont transgresser, qui vont désobéir. Ils sont catholiques. Plus Franco, qui était quasiment bigot.
Mais cette rencontre se lit vraiment comme une pièce de théâtre, qui est à la fois réelle et dramatique, avec cette obsession commune aussi, pour l'un comme pour l'autre. Quelle empreinte vais-je laisser est-ce qu'on parlera de moi, on commençait comme ça dans cette émission, dans 50 ans?
Oui, je pense que De Gaulle a ça. Franco pense qu'il sera banni de l'histoire. Mais De Gaulle a une très haute posture. Il a évidemment raison pour l'instant. Hein.
Frapper l'imaginaire collectif.
C'est pour ça que j'écris ce livre qui est peut-être un peu iconoclaste, mais je pense que c'est une interrogation sur la biographie de De Gaulle quand même. Pourquoi, 5 mois avant de mourir, il va voir Franco?
Ce dernier acte politique. Et là, quelque part,
étrange.
Non, je n'aurais pas la réponse.
Mauriac aura un seul mot quand il apprendra ça. Glaçant, dira-t-il.
L'imaginaire, l'histoire, le passé, c'est vrai, Raphaël Mezrahi. J'ai vu que vous aviez signé des préfaces imaginaires.
Oui, j'avais écrit un livre de préfaces. J'ai écrit les préfaces des livres qui n'ont pas de préfaces. J'ai fait Mein Kampf, ma rencontre avec Adolf Hitler. J'ai fait le Nouveau Testament, donc la préface était l'ancien, forcément. Et oui,
le code civil aussi.
Le code civil, oui. J'ai fait aussi.
La Bible, non ? Vous n'avez pas fait la Bible, le Coran ?
J'ai fait la Bah, je fais le Coran. Là, j'ai 4 lignes parce que j'avais peur de me faire choper.
Petit livre rouge.
C'est... Oui, le petit livre rouge. J'ai fait tout à fait. Oui, oui, oui. Mais moi, je suis plus dans le concept. Le nouveau concept. J'ai écrit. J'étais très fier de ça. Il y a 3 ans, la première bande dessinée au monde sans dessin. Ça s'appelle La bande à dessiner. Il y a 150 pages de bulles et de textes. C'est livré avec des crayons et une gomme. Et les gens imaginent les dessins qui vont avec le texte. Et ça s'appelle La bande à dessiner. Et je l'ai filé à Eddie Mitchell qui m'a rendu complètement dessiné. Donc j'ai tous les dessins dédiés avec mon texte. Donc je suis vachement fier. Et là, le prochain truc, à chaque fois j'appelle les gens ils me disent comment, parce qu'ils comprennent jamais tout ce que je raconte.
Tout ça, je comprends.
Et là, j'ai créé le premier livre au monde savonnette. C'est-à-dire que les pages sont remplacées par du papier savon. Donc c'est comme les Black Carambar. Moi, c'est le Black Savonnette. Donc il y a des pages et c'est quand on finit de lire la page, on la déchire, on la fout sous l'eau, puis c'est du savon, quoi. C'est un livre savon, quoi. Donc,
en fait, c'est une machine à idées, ça veut dire.
Moi, je me fais chier. Je vous ai dit, c'est ma vie. Hein, c'est, faut que je trouve des trucs à faire. Chier. Autrement, c'est.
Ce qui fait que quand on quitte le livre, on s'en lave les mains, quoi.
On s'en lave les mains, c'est ça.
Pas mal. Voilà, la poésie, l'absurde, c'est partout autour de nous. Si on sait bien la regarder, c'est ça. Hein. Voilà. Et ouais, faut regarder ça.
Ça, c'est beau.
Qui fondent et que la lumière soit. Passent les heures que s'écoulent à jamais les secondes et que la lumière soit.
Au coin du monde, avec la belle voix de Kerenan.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai ?
Laurence Garcia.
Et nos deux invités ce soir, le journaliste écrivain Claude Sérillon et l'acteur humoriste Raphaël Mesrahi. Messieurs, il est bientôt minuit, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, je vais vous demander pour de vrai de fermer les yeux. Hop, on vous aide. Et Claude Sérillon qui vérifie. Mais il faut vous rapprocher, Claude Sérillon, les yeux fermés du micro. Voilà, vous allez me répondre les yeux fermés, je sais que c'est pas forcément évident. Je commence par vous d'ailleurs, Claude Sérillon. Dans vos rêves les plus fous, si vous pouviez recroiser cet ancien vous, ce gamin, leader lycéen de Nantes, qui rêvait justement d'en finir avec ce vieux monde, avec le passé, avec les fantômes, avec les réacs, avec les De Gaulle, même si aujourd'hui vous écrivez dessus, c'est plutôt drôle d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous lui diriez à cet ado avec du recul, hein ?
Je lui dirais peut-être de dire plus souvent « je t'aime ». Plus souvent je t'aime aux parents, aux gens. Peut-être qu'on est trop dans la, comment dirais-je, dans la précipitation, dans l'excitation, et qu'on fait pas très très attention aux gens quand on a justement un âge d'ado, comme on a dit, on est peut-être un peu centré sur soi. Donc, oui, c'est peut-être ça, je dirais. Puis pour le reste, vis ta vie, fais ta route.
Et fais de la même manière. Il y a un temps pour tout, finalement. Il y a un temps où, quelque part, on se dit, tiens, si je prenais le temps aussi de regarder les miens, et pas de me préoccuper que des autres, alors.
Oui, oui, hein? Oui, c'est ça.
Plus de je t'aime. Dans les rêves, les yeux fermés de Raphaël Mesrahi, vous pouvez parler à ce gamin qui se voyait menuisier. Hein, oui. Son papa était ouvrier, qui avait envie de travailler de ses mains, hein, d'où votre...
Toujours d'ailleurs, je suis collection de scie, toujours. J'adore.
Oui, pareil que vous êtes un fou des bricolages.
J'adore. Ouais. Ouais, ça me détend.
Et vous, ça me détend. Qu'est-ce que vous lui dites à ce môme-là ?
Fais au mieux. Fais au mieux, c'est compliqué, tout est compliqué. Méfie-toi des gens, mais aime-les. Aime la vie, respecte-les. Écoute-les, regarde-les. Et ça, c'est important. Parce qu'on n'écoute plus, on ne regarde plus. Et puis voilà, fais soit sincère, soit authentique surtout. Après, le reste, après, on pense ce qu'on veut de toi, mais c'est pas grave. Quoi. Sois toi, ça ira très bien. Le reste, on s'en fout.
C'est vrai que vous avez du mal à grandir et que vous organisez encore aujourd'hui des fois des fêtes d'anniversaire pour vos 18 ans que vous n'avez plus.
Ouais, je l'ai fait une fois, j'ai fait il y a 10 ans, j'ai fêté mes 18 ans, c'est à l'époque j'avais la grippe. Et il y a plein de jeunes que j'ai pas pu, enfin, de jeunes artistes, j'ai pas invité, ils me disent pourquoi je suis pas invité, j'ai pas dit parce que t'étais pas né. Bah oui, mais je suis resté bloqué en 74, quoi, 76. Parce que c'est insupportable, le temps qui passe m'insupporte, enfin tout m'insupporte, quoi, on va dire, c'est terrible. C'est une violence inouïe pour moi. Tout ça est insupportable, vraiment. Et je vais arrêter de parler, si je vais pleurer.
Non,
c'est joli, la vie. Ouais. Regardez, en ce
moment. Je sais.
Là, moi, dans mon jardin en Camargue, il y a des fleurs partout.
Super.
Il y a des oliviers.
Des cerisiers, c'est magnifique.
Voilà, puis je regarde les Cévennes au fond. C'est magnifique, la vie.
C'est bien, regardez, il va vous consoler. En fait. Vous pouvez réouvrir les yeux parce que lui, il est ouvert depuis longtemps.
Je trouve ça tellement magnifique. Si on ne s'émerveille pas au jour le jour...
Je suis émerveillé au jour le jour, mais c'est ça qui me fait...
Il y a un moment ou un autre où on ne pourra plus s'émerveiller.
Je sais, mais c'est ça qui me fait... C'est ça qui est violent pour moi. Mais je m'émerveille, évidemment. Je regarde la nature, je regarde les oiseaux, je regarde les animaux, je regarde les plantes, je regarde les
scies au rayon bricolage.
Et les scies aussi, mais je raconte cette histoire dans mon spectacle.
Une collection de rabots, c'est magnifique.
Non, mais vous savez, je raconte l'histoire, si vous permettez une seconde, de la scie. J'achète une scie, mais c'est une histoire vraie qui a des conséquences quasi internationales. J'achète une scie de désincarcération au BHV, j'ai bleu, enfin une scie, quoi, machin. Et donc, je traverse pour récupérer ma voiture au parking Globo, avec ma scie à la main. C'était le début de la captivité d'Ingrid Bettencourt. Mais je sais pas qui c'était. Donc, il y avait 4 caméras de télé, une vingtaine de personnes, et la photo de Bettencourt qui était en promo sur la façade de l'hôtel de ville. Et moi, je traverse, et je sais pas qui c'est parce que c'est le début de la captivité. Je suis avec ma scie à la main, je récupère ma bagnole. Et il y a la fille de Bettencourt qui me reconnaît, véridique, hein, qui vient me voir et me dit oh, c'est tellement gentil d'être venu soutenir maman. Et là, je sais pas du tout qui c'était, du tout, mais je vois une charmante gamine qui vient me voir et moi je lui dis écoutez, c'est la moindre des choses. Et là, c'est le début de la fin. Et elle me dit vous qui connaissez plein de gens, vous pouvez pas mobiliser les gens pour moi. Je dis bah écoutez, le seul cinglé que je connais, c'est Renaud. Donc j'appelle Renaud. Et ouais, frérot, tu vas bien. Je sais que je soutiens Ingrid Bettencourt, j'ose pas te dire depuis combien de temps. Et j'ai pas fini ma phrase, il me dit ouais super, j'arrive aussi. Donc on organise des soirées, des machins, il fait une chanson et tout part de là, le délire.
De la scie
avec Renaud, on a fait des soirées et un jour bon, on nous annonçait là ce qu'elle était libre et donc là c'est... on a arrêté nos fêtes.
Ah là là, et en plus c'est bien réel.
Et tout est vrai.
Comme quoi, et tout est vrai. En tout cas, moi, je suis ravie de cette belle rencontre entre vous. Et puis, voilà, Claude Sérillon, dans le solaire. Hein,
ah oui,
il faut voir le beau aussi, le temps qui passe. Les...
Authentique.
Un déjeuner à Madrid, en tout cas, ça se dévore comme une belle page d'histoire. Et en même temps, cette partie fictionnelle à vous mettre dans la tête de ces deux personnages que sont Franco et De Gaulle. Au Cherche Midi, signé Claude Sérillon. Merci beaucoup.
Merci, Jean.
Votre seule en scène, on mettra les dates de tournée.
Oui, l'année prochaine, je vais en faire Paris, sûrement.
Oh, bah, quand même, ouais.
Non, c'est tellement bien.
Bon,
que je m'amuse.
Bah, c'est l'essentiel. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu et de vous être raconté à travers l'autre.
Merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment charmant.
Plaisir.
C'était un re-bonheur.
Réciproque. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec cette fois-ci l'écrivain Philippe Besson et l'acteur-conteur Yannick Jolin. Et bien sûr.
Très bien, Yannick.
Ah, voilà.
Yannick Jolin.
Ah, formidable.
Et puis, bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.